Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans ce premier épisode, je rencontre le chef québécois Charles-Antoine Crête.
Je suis très très ému quand je raconte des choses comme ça, parce que je me rends compte de tout l'amour que j'ai eu, toute la chance que j'ai eue de ma famille, mais aussi de Normand et de tout le monde autour de moi. C'est juste... Ça n'a même pas bon sens aimer un Mongol comme moi, comme ça.
Après 10 ans passés au Toqué, il est aujourd'hui copropriétaire avec son ami Cheryl Johnson du restaurant Montréal Plaza. Ensemble, on a discuté de ses origines modestes, du premier plat qu'il a cuisiné pour sa mère, de la fois où il a porté une jupe à l'école, et de sa vie pleine d'épisodes façon Astérix.
La première fois, il m'a donné du foie gras, j'avais 14 ans, Jean-Paul, c'est pas un grand communicateur. Cul le foie gras! J'avais comme 14 ans, cul le foie gras, je sais pas comment, tu sais. Mais il est passé cuit! Ben oui, mais je sais pas, j'ai jamais cuit un foie gras de ma vie, tu sais.
À la fin d'épisode, Charles-Antoine va nous cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Mais d'abord, visite guidée dans son restaurant, qui fourmille de petits détails rappelant sa jeunesse, avec pour commencer, ce petit portrait installé sur une colonne proche de la porte d'entrée.
C'est ma marraine.
C'est toi qui l'as mis comme ça? Qu'est-ce que t'as... Ouais. Pourquoi la marraine? Ta marraine,
elle... C'est comme ma deuxième mère, mais elle est décédée depuis 10 ans, plus que 10 ans, 15 ans, 15 ans. Mais ça, c'était comme ma deuxième mère, puis ma mère m'a fait cet encadrement-là, puis quand on a ouvert le premier jour, c'est la première fois que j'ai fini, c'est une des premières choses que j'ai accrochées. Mais en même temps aussi, c'est parce que mon père est bénisculteur. Sculpteur, tu sais, moi j'ai grandi dans une maison de 225 ans, tu sais, comme toutes les colonnes, c'est avec mon père qu'on les a fait. Le meuble qui est là, c'est mon père qui on l'a fait ensemble. La table qui est là, cette table-là dans mon bureau, c'est des tables que mon père, c'est des meubles que mon père faisait. Il fait encore, Maintenant, il collectionne plus ses horloges, c'est pour ça qu'il y a des horloges. Souvent, moi, je comprends pas les gens qui engagent quelqu'un pour faire du design, qui donne une carte blanche à interpréter qui sont eux comme designers, mais pas, tu sais, je veux dire, peut-être que le monde n'a pas assez de beurre d'arachide à mettre sur l'autoce, fait qu'il beurre large, tu sais, si on veut.
Ouais. Les schtroumpfs là-bas, là? C'est à toi? C'est ta collection?
Ah, ben, c'est un cadeau que j'ai eu à un moment donné, mais tu sais, c'est des espèces de petits bonhommes comme ça. J'ai commencé à en acheter plein pour en cacher partout tout le temps, tu sais. Puis en même temps, moi, ma vie est comme calquée à peu près sur les aventures de Cérix. Tu sais, c'est le côté, tu sais, c'est. Moi, tu sais, pour réussir dans la vie, j'ai Game Show, mettons, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, tu sais, Normand, tu sais, tout mon monde autour depuis des années. Puis, il y a des aventures, puis on réussit, on passe à travers, puis ça finit que, absolument, on fait un repas. Ou à peu près, là, ouais. Mais dans le sens où, ça finit tant que c'est festif, ça finit que ça, on s'en sort, puis on passe à travers, puis on continue. T'sais.
Ça, la bande dessinée, c'était un truc qui te plaisait vraiment beaucoup quand tu étais enfant?
Ben, moi, j'aime beaucoup, hein. En même temps, tu sais, j'ai pas lu des milliards de bandes dessinées différentes. Moi, je faisais des Astérix, je faisais des Schtroumpfs, des Boulébiles. Puis en même temps, ben, tu sais, mais c'est comme là-bas, c'est des cabinets de curiosité. C'est comme une espèce de vieux solier que j'ai patenté. Dans le fond, ça, c'est ces boîtes-là. Dans le fond, il y a juste moi qui ai le droit de bouger des affaires dedans.
C'est vrai? C'est ta chasse gardée?
Ben non, mais c'est en fait, c'est des, comme des cabinets de curiosité que finalement, c'est une espèce de solier pourri que j'ai aménagé comme ça. Puis ça, c'était là déjà quand j'ai acheté le restaurant. Là. On a fait beaucoup de réno parce que c'était vraiment d'une laideur horrible. Là.
Mais c'est ça, c'est comme un mix entre des choses d'enfance puis des choses que tu as peut-être trouvées genre au fur et à mesure de voyage.
Moi, puis les choses bougent, changent une fois par 6 mois, année. Je les vide, je les refais. Là, j'ai fait la boîte de Paul Bocuse pour son décès. Là, tous les jours, il y a tout le temps des nouvelles fleurs dedans. T'sais. Mm-hmm. On tourne les fleurs. Tous les jours, 2 jours, 3 jours, on change les fleurs. Il y a toutes les coques. T'sais, parce que moi, mon famille, c'est Crête.
Donc, forcément.
Puis, ben, ça colle avec l'espèce de coq français, là, si on veut. Là. Mais ouais. Bon, c'est un peu ça, là, tu sais.
Quand je viens manger dans un restaurant, mon truc que j'adore, c'est de manger ici. Okay. Je déteste manger à une table. Avec ma copine, on se met côte à côte et on adore ça. Et on mange devant les schtroumpfs, tu vois.
Ouais.
Qu'est-ce que tu cherches à provoquer comme réaction chez les gens qui viennent manger chez toi et qui sont face à des schtroumpfs?
Rien, pas vraiment. Moi, j'aménage des univers. T'sais. Ma vie, c'est d'aménager des univers un peu, ou dans ma tête, ou physiquement, tu sais.
Ouais.
Puis. Ben, je place des choses d'une façon, puis à un moment donné, peut-être que dans 3 mois, ça va être, les choses vont peut-être coller au plafond là, puis ça va être peut-être des plantes. À un moment donné, ma mère, elle passe devant, on est en train de faire les travaux, on est pas loin d'ouvrir. T'sais. Là, je venais de tout aménager cette affaire-là. Ma mère, elle marche, elle passe devant, elle dit, on dirait à la maison. Puis elle continue, puis j'ai comme réalisé. Moi, j'ai même pas réalisé.
De ce genre de cabinet de curiosité, on pouvait avoir ça chez toi?
Chez nous, chez mes parents, il y en a plein. Là. C'est toutes des espèces de bibliothèques vitrées, un bonhomme, les livres, là, c'est. T'sais, tout est comme la maison, c'est comme c'est une œuvre d'art. Tout le monde pose tout le temps. Prends-tu un verre de vin blanc?
Ouais, vas-y,
viens. Non, t'as pas un vin blanc.
Tu veux voir?
Ben oui. Prends-tu un vin blanc? C'est un petit fond de vin blanc. Là. C'est un peu tôt, mais ça nous fait du bien.
Allez.
Tu sais, les gens posent tout le temps la question, hey, comment. Où prenez-vous votre créativité, vos idées? C'est une question un peu absurde, mais en même temps, tu poses la question quand même. Ça fait des années, ils pensaient. Moi, je faisais une conférence à New York, c'était le chef, puis on était à deux jours, même pas avant de partir, puis c'était devant comme 300-400 personnes, tu sais, puis j'avais comme... Puis moi, je fais des conférences, on va pas faire une démonstration de comment cuire un magret à 52. Ça, c'est de la merde, ça amène rien. Puis, dans le fond, c'est qu'on était dans le temps des canages de tomates, fait que j'avais une canne de tomates. Puis là, j'ai réalisé, dans le fond, avec les plures, tout ce qui va dans les poubelles, l'écume, les grains, peu importe, nous, on faisait à peu près 11 et 14 transformations avec tout ce qui va aux poubelles.
Ouais, c'est ça.
T'sais? Ça, c'est l'époque, ça, c'est plus que 10 ans. Là. C'est avant que ce soit la mode de parler de récupération alimentaire. Puis là, ça a parti comme ça. Puis là, toute l'histoire de la conférence, c'est bien raconter comment, dans le fond, nous autres au Québec, notre héritage de pauvres fait que, dans le fond, on patente puis on fait qu'est-ce qu'on a.
Quoi, ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu dans ta famille quand tu étais plus jeune?
Ouais, c'est là que j'arrive. Mais tu sais, au Québec, comme les pays catalans, tu peux se demander pourquoi les Catalans sont aussi crinqués, là, parce qu'ils n'ont jamais rien eu. Tu fais qu'est-ce que tu as. Puis, ben, ça, c'était le début de la réponse de ça vient de où notre créativité. T'sais?
La contrainte.
Puis, la contrainte, puis aussi, ben, à creuser et à comprendre pourquoi que moi, tu sais, mon père, par exemple, était vraiment très, très pauvre. Mes parents ont vraiment réussi. Puis, mais le plus beau cadeau qu'ils ont fait, ils m'ont élevé comme un pauvre. T'sais? Fait que mon père, quand il était ma grand-mère, elle a coupé les cordes à rôti, puis quand on avait assez, elle les attachait ensemble, puis elle faisait une lavette, la vaisselle. T'sais? Après ça, moi, quand j'étais petit, mon père, ben, quand c'est le temps, je l'étais en cowboy à l'Halloween, ben, il me disait, va dans la boîte à bois, dans l'atelier, je prenais une plaque de bois, je dessinais un fusil, il le découpait, je le sablais, je le peignais, puis je jouais un chapeau, vire la boîte à l'envers, découpe la boîte, fais un chapeau.
Système D, quoi.
Puis après ça, ma mère, on appelait ça l'armoire à guenilles, c'était tout le guenilles, la robe de marine de ma mère, tout ça, ping, 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 elle me patentait un saut. J'allais passer l'Halloween. J'avais jamais acheté. Puis des fois, le monde riait de nous autres, là, mais en même temps, tu sais, on a tout le temps été, un peu off the line, là, dans le sens, quand j'étais petit, le monde riait de moi, puis ma mère, elle disait, fais-toi, tu sais, quand j'étais petit, le monde riait de moi, puis j'ai moins d'amis. Après ça, au secondaire, ils ont commencé à me trouver bizarre, puis aujourd'hui, ben, je gagne ma vie à cause de ça. Fait que j'ai évolué, mais j'ai-tu bien fait de pas changer, quand
c'est clair.
Puis, mais en fait, fait que, tu sais, de la lavette à ma grand-mère,
ouais,
au costume de cowboy avec mon père, moi, aujourd'hui, ben, je prends des trims de légumes, puis je fais de la mélasse de légumes avec.
On quitte la salle du restaurant en pleine préparation du soir pour se poser au calme, dans son bureau, avec de grandes fenêtres donnant sur la rue Saint-Hubert. Autour d'une bouteille de blanc, il évoque avec moi ses souvenirs d'enfance à Saint-Augustin de Mirabel et son intérêt très jeune à la cuisine.
À moins de 10 ans, entre 5 et 10 ans. Ben moi, à 9 ans, j'ai dit à ma mère, je vais être chef. Puis j'ai jamais changé d'idée.
Comment t'en avais entendu parler de ça? T'avais vu ça dans une BD? T'avais genre
non, ben ma mère cuisinait quand même. Puis moi, ce que j'aimais, c'est parce que j'étais beaucoup dans l'atelier de mon père. Puis là, j'apprenais à faire de la sculpture, de la peinture. Ouais. Puis tu sais, c'était quand même long, là, de sculpter des bustes, puis des mosaïques, des sculptures, puis bon. Puis, tandis qu'avec ma mère, c'était instantané. Dans le sens, ma mère, elle partait chercher des homards, puis des pétons, puis là, elle l'essayait. Elle était tout en train d'essayer. Bon, absolument assez concluant, mais il y avait des gros fiascos. Mais dans le sens, tu sais, elle jouait avec des affaires, puis le résultat était instantané, tu sais. Puis moi, à force, mais ben là, ma mère, tu sais, quand j'ai peut-être 7, 8, 9 ans, là, ma mère, mes parents, mettons, ils partaient chez les amis au village, puis ils me laissaient tout seul. Puis là, je faisais des comptes, puis j'allais chercher, je sais pas, des saucisses dans le frigo, des affaires, puis là, je cuisais des affaires, puis je faisais cuire une part, puis...
C'était réussi?
Ah, c'était pas pire. Là, ben, je disais, j'avais, je sais pas, 7, 8, 9 ans, même quand j'avais 4 ou 5 ans, c'est ça, plus très très petit, parce que je me levais, parce que je vais me faire mon déjeuner, tu sais.
Ouais.
Fait que là, je me levais avant mes parents pour aller faire mon déjeuner, mais ils voulaient pas. Je disais que j'étais capable, à 4h du matin, j'allais me faire un œuf, tu sais. Puis je sais pas, moi, je disais à ma mère, moi, je vais être chef, puis elle dit oui.
Mais ta mère a cuisiné beaucoup, mais c'était pas un métier, c'était pas son métier.
Non, non.
Comment tu savais qu'on pouvait gagner sa vie en faisant de la cuisine?
Ben, je veux dire, il y avait, je sais pas, ma mère avait les livres de Paul Martin, je regardais les livres de Paul Martin, je voyais qu'il y avait
c'est des... C'est comme ça que t'avais vu les premiers chefs dans ta vie?
Ben, je voyais qu'il y avait des chefs, ouais, puis moi, j'ai vu, moi, j'avais, peut-être, je sais pas, quand j'avais 10-11 ans, j'avais collé une photo de la Tour Eiffel dans ma chambre, tu sais, puis je me suis dit un jour, je vais aller cuisiner en France, tu sais, parce qu'on pensait qu'il y avait juste en France que le monde cuisinait bien, puis non, puis en même temps, quand j'ai eu à peu près 10-11 ans, à peu près, j'ai commencé à travailler dans un restaurant dans mon village. Puis là, j'étais plongeur, tu sais. Puis quand je devais avoir 12 ans, peut-être, deux ans après que j'ai commencé, là, à peu près vers 12 ans, il y a Jean-Paul Giroux, qui est encore un ami à moi, qui est un Français qui arrivait de Bretagne, puis lui a acheté le restaurant, tu sais. Puis tu sais, c'était un boui-boui, on était 800 dans le village. Puis avant le restaurant, c'était un restaurant, tu sais, de marbre, là. C'est un restaurant de... sais, c'était des trucs panés du Costco, tu sais. C'est comme une espèce de table champêtre, mais tu sais, avec des produits de marbre, finalement, tu sais. Puis Jean-Paul, il est arrivé, puis là, tu sais, du jour au lendemain, tu sais, là, il y avait des œufs en arrière dans le poulailler. On allait chercher des herbes dans le jardin de ma mère. On allait au village chercher toutes les tomates, les asperges. Il montait à Montréal chercher les poissons, le cerf de Boileau qui rentrait. Moi, la première fois, il m'a donné du foie gras. J'avais 14 ans. Jean-Paul, c'est pas un grand communicateur. Cul le foie gras! J'avais comme 14 ans, cul le foie gras. Je sais pas comment, tu sais. Mais il est passé cuit! Ben oui, mais je sais pas. J'ai jamais cuit le foie gras de ma vie, tu sais. Fait que j'ai commencé comme ça. Fait que je faisais la plonge. Puis de plus en plus, je commençais à faire le pain puis la pâtisserie. Puis là, il y avait Alexandre, nos amis, qui était son sous-chef, était plus vieux que moi. Ben, sous-chef, il était deux dans la cuisine. Puis un jour, Alexandre est parti. Fait que moi, j'ai pris la place.
Qu'est-ce que t'aimais cuisiner quand t'étais dans cette cuisine dans ton village? Qu'est-ce que t'aimais particulièrement comme produit?
Faut que je fume. C'est juste on se met sur le bord de la fenêtre dedans.
Ouais, carrément.
Ben, c'est parce qu'en fait, chez Jean-Paul, on découvrait faire des, tu sais, un pain cuit dans un ramequin avec de l'huile d'olive, tu sais, déjà faire du pain, ah bon. Faire des crèmes anglaises, tu sais.
Ça, c'est des trucs que t'as appris, j'imagine?
Ouais, ben c'était des trucs, c'était quand même classique, c'est ce qu'on faisait avec Jean-Paul, tu sais. Non, il y avait les macarons escabèche, les pâtés de campagne de sa mère en Bretagne, c'est ce qu'on faisait. Mm-hmm. Moi, j'allais acheter tout le temps plein de patentes au Chinatown, Jean-Paul, il savait pas. Moi, j'avais des sacs, des affaires. Puis, j'amenais plein d'espèces de produits, on patentait des affaires. Puis là, l'été où j'étais revenu, justement, il me laissait faire un ou deux spéciales à toutes les soirs, tu sais. Fait que j'avais le droit de faire des plats. Puis là, je patentais des espèces de... des maquis rôtis, pis là, tu sais, mais moi, j'ai beaucoup de misère à lire. Je faisais des BD, mais tu sais, lire un roman, j'ai énormément de misère de concentration. J'ai jamais eu de livre de cuisine. Moi, j'ai un larousse gastronomique.
Donc, tu faisais ça à l'instant, genre?
Ouais.
Tu te rappelles la première fois que t'as cuisiné un truc pour ta mère?
Ouais.
C'était quoi?
C'était pour la fête de ma marraine, ma tante Germaine.
T'avais quel âge?
J'avais 10 ans. J'avais fait un potage aux épinards. Après ça, j'avais fait une escalope de pêche et au millet. L'autre, le dessert. Je pense que le dessert, j'avais fait genre des coupes glacées, là, genre de la crème glacée avec du sirop de menthe dedans. Là.
Réaction?
Ah ben, tout le monde était bien content. Le millet était trop cuit. Les pêches, ben, c'est des pêches en canne. Puis les escalopes, ben, ils étaient pas mal cuits aussi. Le potage, il était un peu... Ben, tu sais, je me souviens de tout ça, là, il était un petit peu trop stiff, le potage de homard, mais gars, c'était pas si pire. J'avais mis des gouttes, c'était tout décoré avec des points de crème.
Ouais, t'avais fait la présentation de l'assiette puis tout.
Oui.
Ah, il devait être quand même fier.
C'est une recette de Paul Martin. J'avais suivi peut-être une des trois fois que j'ai suivi une recette.
Est-ce qu'il y avait des... En tant qu'enfant, il y avait des trucs que tu détestais? Je veux dire, on a tous eu nos trucs qu'on haïssait, genre...
Moi, j'aimais pas les aubergines, mais c'est parce que ma mère cuisinait pas bien, donc aujourd'hui, j'aime les aubergines.
Et ta mère devait quand même être une bonne cuisinière, parce que, à part les aubergines, t'as quand même donné le goût.
Oh, elle cuisinait super bien, là, ma mère, là, c'est une machine de guerre, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, elle s'embarque, elle fait des patentes, elle installe un fumoir, puis là, elle refait une espèce de gigot qu'elle cuit pendant 12 heures, puis là, elle remet ça avec un jus, puis là, elle va dans le jardin chercher des affaires, puis... T'sais, ma mère est un peu comme moi là-dessus, elle va à l'instinct. T'sais. Elle suit quand même des recettes, mais t'sais, c'est une patenteuse. Mon père aussi est patenteux. Moi, on fait. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais pas le droit. Dans l'atelier de mon père, j'avais trouvé une planche en U comme ça, OK? J'avais 9-10 ans. T'sais. Puis, tout le monde avait des skateboards, moi, j'avais pas le droit. Ma mère voulait pas parce qu'elle disait que je vais me casser à ma roulette. Elle voulait pas que je me fasse mal. Fait que, j'ai pris la planche en U. J'ai réussi à sauter avec la planche en U. Fait que moi, j'en fonds, puis tout le monde riait de moi, mais bon. Le monde, il allait au parc, faisait du skate. Moi, j'amenais ma planche, je sautais sur ma planche. J'avais pas de skate, mais je m'en étais comme inventé un. Mm-hmm. C'est la résilience. C'est ça.
C'est pas mal, ça.
C'est faire avec qu'est-ce que t'as, un peu, là.
On peut rentrer. Le montage, un peu. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais, aujourd'hui?
Je commence pas à fumer, ça rend de la merde. C'est vrai. Moi, j'ai pas de...
T'avais pas d'insécurité? Quand t'étais petit, où tu te dis, maintenant avec du recul, j'aimerais juste comme donner un coup de boost à la personne que j'étais?
Non, je serais tout de la même façon. Puis à 22 ans à peu près, là, j'ai une grosse discussion avec mon ego. Je suis une montagne, là, 23 ans peut-être. Je suis une montagne en Espagne, là, puis là j'ai dit, bon, là à partir de maintenant, l'ego c'est plutôt qui décide. Tu sais, tu m'as aidé à carburer à frustration, puis avec toutes les tabarnaks qui m'aimaient pas, puis que ça, tu sais, je travaillais comme un fou, mais à me venger de tout le monde qui croyait pas en moi, t'sais. De tout le monde qui m'ont dit que j'étais un pas bon, pas un peu ci, pas un peu ça. ça, c'est l'ego qui m'a donné cette énergie-là. Mais moi, j'ai dit, là, par contre, là, à partir de maintenant, c'est fou, mais c'est vrai, ça a duré vraiment 2 heures. À partir de maintenant, c'est plus toi qui décides. Les décisions, c'est moi qui les prends. Tu vas tout le temps faire partie de ma vie, mais à ce temps, t'es à côté de moi. Puis moi, je veux changer ma façon de faire, tu sais. Puis l'ego et la jalousie, tout le monde en a, mais c'est les deux affaires qui peuvent te manger. T'sais, si tu commences à être jaloux, à toi regarder le voisin, puis à prendre des décisions par rapport à ce que tu voudrais de lui, genre comme les gens sur les réseaux sociaux qui passent leur vie à être jaloux de tout le monde, là, c'est foutu. Si l'ego te fait dire ou prendre des décisions, faire des choses dans la même situation qui t'amène à aller trop vite ou à prendre une mauvaise décision, c'est encore là, c'est l'ego qui a choisi. T'sais. Fait que l'ego et la jalousie vont tout le temps exister, mais c'est de la façon de les gérer. Puis moi, ils sont assis à côté de moi, mais c'est pas eux autres qui décident, c'est moi. T'sais. C'est là que je m'en vais. Puis, si j'avais à faire quelque chose, à part arrêter de fumer, j'aurais tout fait pareil.
Est-ce que tu te considères être une personne nostalgique?
Je suis pas nostalgique, mais je suis très... Tu sais, tu vois, des fois, je parle, puis moi, je suis professeur, mais tu sais, souvent, je suis très, très ému quand je raconte des choses comme ça, parce que je me rends compte de tout l'amour que j'ai eu, t'sais. Toute la chance que j'ai eue de ma famille, mais aussi de Normand et de tout le monde autour de moi. T'sais, c'est juste... t'sais, ça n'a même pas bon sens aimer un Mongol comme moi, comme ça. Je suis pas nostalgique, mais souvent, je pense, des fois, j'y pleure. J'en pleure tout le temps, puis c'est correct, pleurer, ça du bien dans la vie. Mais c'est ça, c'est pas de la nostalgie, c'est plus de le réaliser, maudit que je suis chanceux. Je suis tellement chanceux, puis je leur dois ça. T'sais, je dois énormément à beaucoup de monde. Je suis très, très ému tout le temps de quand je me rappelle, puis que je vois toute la route avec tout le monde que j'ai parcouru pour me rendre à aujourd'hui. Puis des fois, j'en reviens même pas que j'ai pas lâché.
Mais quand je parlais de nostalgie, c'est aussi tous les objets qu'il y a dans ton restaurant. Je parlais aussi de ça.
Mais c'est mon univers, c'est toutes mes affaires. T'sais, des fois, quand je vais mourir, je pense brûler tout, puis crisser tout ça avec moi dans la tombe, là, puis on s'en va. De la sens où c'est... Mais c'est nostalgique.
Mais ça t'accompagne. Ton passé t'accompagne beaucoup.
Mais mon passé, il est garant de mon présent et de mon avenir. Tu sais, ça fait partie, c'est moi. Tu sais, je veux dire, toutes ces affaires-là me suivent parce que dans le fond, tu sais, c'est le respect que je présente à tout au schtroumpf et à ma mère qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, c'est à cause de Astérix, de Ciné Cadeau, de ma mère, de Jean-Paul Giroux, de Normand, de... Tu sais, c'est tous ces gens-là, puis toutes ces influences-là qui ont façonné qui je suis, à quelque part, avec moi aussi ma vision à moi, ma tête de cochon, tu sais. Puis c'est un peu, je suis rendu là à cause de tout ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus du respect que de la nostalgie, c'est que j'aime ça garder des traces, puis des images de tout ce qui m'a fait autour, parce qu'encore aujourd'hui, ces choses-là sont utiles dans ma vie.
Est-ce que tu es père?
Non, ça va être la prochaine étape, mais c'est mon rêve.
Tu te vois, ouais, t'as de père, justement.
Oui, c'est mon rêve.
Qu'est-ce que tu ferais pour l'éducation de tes enfants? Il y a quelque chose que tu t'es déjà projeté en disant, genre, j'aimerais que mon kid, je lui enseigne ça ou je lui apprenne ça ou, tu sais...
Je pense en termes de valeur, c'est une valeur de respect, d'inclusion, tu sais, être inclusif, être respectueux des gens, tu sais, on regarde là, aujourd'hui, moi, ma mère, quand j'avais 5 ans, elle m'a amené à maternelle, première journée d'école, puis elle m'a dit, si tu ris de quelqu'un parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est noire ou qu'il vient pas d'ici, tu t'en vas dans la chambre d'invité. C'est la chambre d'invité, c'était la fessée.
Mais c'est super que ta mère ait dit ça, genre à l'époque que c'était et dans la région où tu étais, je veux dire, c'est top.
Oh, oui, mais ma mère aussi, elle, ben, quand elle était petite, elle était grosse. Elle dit, moi, quand j'étais petite, j'étais grosse, tout le monde rit de moi.
Donc, personne rira. Pas mon fils, il rira pas de.
Ben, tu sais, moi, j'ai le temps été le rigolo de tout à l'école, renvoyer des pitreries, tu sais. Mais je veux dire, c'était tout le temps, c'était du deuxième degré, puis c'était jamais sur une personne. C'était un temps des. À rigueur, si j'avais attaqué du monde, j'attaquais, genre, l'équipe de football, les plus cools de l'école, tu sais, que j'arrêtais pas de leur dire que j'ai envie de coucher avec eux autres, puis ils avaient peur parce qu'ils pensaient que je suis homosexuel, puis c'est comme ça faisait rire tout le monde, tu sais. Mais je veux dire, c'est le temps, tu sais, de mettre ça dedans au deuxième degré. Moi, ma gang, là, il y avait comme le gros avec des lunettes, les deux gars qui jouaient dans la même équipe de basket que moi, j'étais comme élu l'élève le plus bizarre de l'école. Tout le monde me connaissait, mais mes amis, c'était tout le monde. Je connaissais tout le monde, tu sais. puis toutes sortes de monde, puis il y en a beaucoup en fait, même que je connais encore aujourd'hui. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'était de faire des blagues drôles, tu sais, rigolotes, tu sais, justement un peu Astérix, tu sais, les bonnes vieilles, blagues, tu sais, un peu façon Coluche, le rigolote, tu sais, des vraies blagues, tu sais, des mauvais coups rigolos, genre, mettons, arrivé j'étais au collège, ça a pris 3 ans au moins avant qu'ils me mettent dehors, mais quand même. Puis j'arrive au collège, puis ben là, je portais l'uniforme des filles. Puis là, ben là, je me fais envoyer à la direction, je savais. Puis là, ben le règlement dit le port d'uniforme est obligatoire, mais il n'y a rien qui stipule, homme, femme, c'est pas clair votre truc. C'est pas clair. Vous avez donc le droit. Puis là, tu sais, je foutais un bordel, tu sais, j'étais comme mes parents sont venus me chercher, tout le monde applaudissait par les fenêtres du collège, tu sais. Mais tu sais, c'était des blagues rigolotes, tu sais, des bonnes blagues, tu sais. Mais après ça, tu sais, de faire des blagues, puis de pointer ça sur quelqu'un, de... Moi-même, quand j'étais petit, tout le monde me disait, tout le monde me trouvait bizarre. Puis tout le monde riait de moi, riait de mes costumes, il riait de mon univers quelque part. T'sais. Mais regarde, ce monde-là, aujourd'hui, ils sont plates en Christ. Puis moi, j'ai gardé ces valeurs-là que mes parents m'ont transmises. Puis ça s'applique à n'importe qui ici. Puis moi, je peux être difficile, puis je peux être tough sur du monde. T'sais. Mais jamais que je vais être cheap shot, puis gratuit. Puis personne n'est autorisé à le faire. On a une situation, une fois à un moment donné, pis c'est assez clair. Jamais. Jamais. Jamais que je vais cautionner de l'intimidation ou du bullying sur des gens parce que c'est gratuit. Ça, c'est facile. Tu sais, fais ça sur des pauvres. C'est bon. C'est le show que...
Toi, t'as réussi à faire ta place quand t'étais gamin ou on te faisait chier quand même?
Non, j'ai quand même assez... Non, j'avais un petit peu de caractère quand même. Mais je veux dire, ben oui, c'est parce que, tu sais, les gens étaient tellement... Oui, je pense qu'il me trouvait tellement mongol puis fou puis ben, un peu comme aujourd'hui finalement que le monde ils savent comme plus quoi penser, fait qu'ils sont comme stoïques,
ils sont comme... C'est la meilleure technique de défense, hein. Si tu te fais agresser, passe pour un fou puis les gens vont te laisser tranquille.
Ah ouais, bah ouais. Ah bah.
Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Malgré ses 3 tocs obtenus chez Go et Mio, Charles-Antoine nous réserve une petite surprise que je vous laisse découvrir par vous-même.
Ben oui.
On parle pas de trucs.
Peux-tu m'attendre? Peux-tu dire qu'il me fasse une mise en place, sandwich aux tomates, toaster, tout? Yes.
C'est quoi le plat que tu cuisines aujourd'hui?
C'est un sandwich au beurre d'épinard avec des tomates dedans.
Pourquoi?
Ben parce que c'est le sandwich que je fais, je le fais encore, je le fais pour des clients des fois, puis c'est ce que ma mère, c'est ce que j'ai tout le temps mangé quand j'étais jeune, puis à chaque fois que j'en parle, tout le monde comprend pas, tout le monde est comme « Ah! » C'est comme la meilleure affaire sur la terre, tu sais. Puis je trouve que ça est devenu une joke. Ouais, beurre de pinot de tomate, là. Puis du pain cheap, là. Ça prend pas du beau pain, là.
Ouais.
Ça prend du pain cheap. C'est des pains hamburger cheap, là. Ou ben, tu sais, on appelle ça du pain Kleenex, là. C'est du pain Weston que t'achètes en tranche, là. Un des plats, je te dirais, peut-être, tu sais, qui m'a appris à comprendre, tu sais, sans que je m'en rende compte, mais tu sais, des extrêmes, tu sais. Tu sais, moi, je voulais savoir c'est quoi que ça goûtait le sucre. Je mangeais des cuillères de sucre. Je voulais savoir c'est quoi ça goûtait le sel. Je mangeais des cuillères de sel. Après ça, mettons, j'achetais un vin sucré, je mettais une cuillère de sel dans ma bouche, je prenais une gorgée de vin sucré, voir qu'est-ce qui se passait. Tu sais, c'est un peu niaiseux, pis c'est pas prétentieux ce que je dis, mais moi, j'ai comme le goût absolu. En fait, c'est que j'ai pas besoin de manger pour savoir ce que ça goûte. C'est-à-dire que si je te dis le mot artichaut, fraise, puis huile d'olive, je sais exactement tout ce qui se passe dans ma... Ça goûte, là. Je te le dis, là, puis ça goûte, puis je sais déjà toute quelle partie de ma bouche, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma bouche, je l'ai toute.
On va cuisiner?
Ouais, on va faire des sandwichs.
C'est plus toi que moi. Hein. En même temps, un sandwich, ouais, ça va aller.
Ça sera pas bien compliqué. Ça marche. Bon, c'est très bien ça. Sont mes hamburgers cheap? Bon, maintenant, voilà. On a une recette formidable. Tu prends le pain, tu mets. Ouais, au-dessus, ben oui, faut pas perdre la croûte, là. Donc là, on fait toaster des tranches de pain. Pendant ce temps-là, on fait des tranches de tomates. Oui. Là, ça c'est gars là, qu'est-ce que je mets du beurre d'épinette là sur les 2 tranches. Là, on met une tranche de tomates. Du poivre. Sel. Mais des fois, je mets ma main un petit peu d'huile d'olive quand même. Et voilà. Le sandwich, je vais le couper. Ça fait une belle présentation, hein?
Oui.
Hein?
C'est encore chaud. Mais ça, ça te rappelle l'enfance ou c'est juste du quotidien pour toi?
Bon, ça me rappelle l'enfance, mais en même temps, ça fait partie de mon quotidien. Et puis à chaque fois que je fais un sandwich au bar de pinette pour le tomate, je pense à ma mère. Hein.
Ouais. C'est bon.
Déjà, je suis bon.
Ouais.
Ouais, des fois, là, je peux en manger trois de même. Je te jure.
Ouais, mais t'as pas mis de la tomate de merde aussi, hein?
T'as mangé l'été. Mais bon.
Merci énormément à Charles-Antoine Crête pour son temps et sa confiance pour ce premier épisode de La Bouche Pleine. Merci à Annabelle pour la coordination et surtout Dominique Lafont pour la connexion. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de La Bouche Pleine. Ce podcast est encore jeune, alors n'hésitez pas à donner vos commentaires constructifs sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple ou Google Podcast, et surtout d'en parler autour de vous. Merci mille fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.